Cube Radio.
Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
Vous écoutez
Martino.
Cube Radio.
C'est l'ami Vincent Dessureau qui est tout optimiste. Tu penses qu'on va avoir un beau Noël?
Non, je veux pas te dire ça, mais c'est parce que je regarde, il faut se comparer, là. Et souvent, M. Legault fait ça, puis on dit, en Europe et aux États-Unis, là, les chiffres, je regarde à tous les jours, moi, depuis le début de la pandémie, là. J'ai couvert ça des mois et des mois. Vraiment, c'est en flèche, là, Richard, dans les pays d'Europe et dans plusieurs États américains, en flèche vers le haut. Donc, eux vont avoir des choix difficiles à faire. Ce que nous, on a déjà fait. Alors, je pense qu'on est quand même... Nous, la courbe est aplatie. Alors, on est rendu au reste. Là. Elle sait que ça baisse. Puis elle se demandait après, qu'est-ce qu'on va peut-être pouvoir ouvrir?
Ça baisse, là, on va ouvrir. Là, ça va remonter. Là, on va fermer.
Ben, faut trouver l'équilibre.
Ça baisse,
c'est ça que le monde réclame.
Là, on va ouvrir.
L'équilibre. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on peut ouvrir pour que ça reste à un niveau décent? Puis, je me dis, peut-être qu'on a une chance aux fêtes. Là. Nous, on a une chance pour les fêtes.
OK, on va ouvrir pour les fêtes.
Oui.
En février, on va voir fermer.
Ben ça dépend parce que pendant les fêtes, il y aura pas d'école pendant plusieurs semaines. Donc là tu dis le 24 là, vous pouvez vous réunir à 6 ou
à 6, penses-tu que les gens vont dire à 6.
Ouais, mais tu dis il va y avoir des exceptions, mais c'est une journée, l'école va être fermée pendant je sais pas 3 semaines. Alors est-ce que ça peut garder l'équilibre pour dire tout le monde va passer au moins un beau Noël, puis on va j'ai espoir. Alors qu'en Europe, aux États-Unis, on commence à manquer d'options là. On trouve ça bien le fun de garder tout ouvert,
Très hâte d'entendre Emmanuel Macron cet après-midi.
Ouais, des choix difficiles. Entre autres, parmi les choix, il y a vraiment un reconfinement sévère. Faut dire que 2/3 des Français sont déjà sous couvre-feu.
Ça va pas bien. Écoute, on dit tout le temps que la couverture médiatique sur Donald Trump, elle est très négative. Tout le temps. Les médias sont tous à gauche. Puis, ils rient tous de Trump et tout ça. Est-ce que c'est vrai?
Bon. Parce que, aujourd'hui, ça, faut dire, c'est Fox News qui sort une étude d'un, le Media Research Center, super de droite. C'est vraiment on s'entend biaisé ces chiffres-là au bout. Mais ils sont quand même intéressants parce qu'on a quand même fait un exercice d'écouter ce regroupement-là. ABC, CBS et NBC aux États-Unis, on l'avait fait en 2016 pendant l'élection de 2016 contre Hillary Clinton pour voir où on se plaçait au niveau des médias. Et on l'a refait l'exercice cette année en étudiant donc ces trois médias entre le 29 juillet et le 20 octobre. On écoute en gros le bulletin de nouvelles de fin de soirée puis on regarde qui parle de quoi et est-ce qu'on en parle positivement ou négativement. Je vous rappelle, c'est un groupe totalement biaisé, mais les chiffres sont quand même intéressants. Là où on arrive à la conclusion principale, ces trois médias parlent de Trump négativement à 92% du temps. Et Joe Biden, lui, c'est positif à 66% du temps.
Okay.
Dans les chiffres intéressants, on couvre Trump trois fois plus que Joe Biden.
Ben là,
trois fois
président.
Plus de couverture parce qu'il est président et il est plus divertissant aussi, là. Faut dire,
oui.
Pour vendre la copie, il en vend. Faut dire que ça se ressemble par rapport à toute la présidence de Trump. On dit que depuis le jour de l'investiture jusqu'au 20 octobre, c'est 90,5% de couverture négative. Puis on parle de l'impeachment, les dossiers de la Russie, tous les scandales qu'on a connus avec l'Ukraine et autres. Une des différences entre cette année et 2016, c'est que Hillary Clinton aurait eu, selon leurs calculs, une presse négative à 79% à l'époque, alors que Biden, lui, est dans le positif 66% de plus. Le seul truc qu'on lui reproche, c'est évidemment son âge, mais c'est vraiment minime dans la couverture à côté du coronavirus Trump qui a pogné le corona, ses commentaires sur le vote par la poste, les manifestations dans plusieurs États américains, les retours de taxes impayés de Trump et compagnie, et qu'on parle presque pas, là, entre autres, du Kamala Harris qui est trop de gauche, selon eux, encore là, le fait qu'on va packer la Cour suprême, là, donc on en a parlé que quelques minutes. Alors, je pense qu'ils ont quand même un point là-dessus, mais on n'a peut-être pas la même analyse du pourquoi. C'est qu'eux, selon eux, c'est parce que les médias, font juste pas aimer Trump. Est-ce que c'est parce que Trump fait aussi juste des niaiseries à longueur de journée?
Ben c'est ça aussi, là.
Il y a cette analyse-là aussi que les médias peut-être font juste couvrir. Quand Trump dit une grossièreté, ben peuvent pas en faire une couverture positive à 50-50. Là.
Ben oui.
Alors, s'il fait des folies, est-ce qu'on est un peu trop soft sur Biden? Possiblement.
Tu sais, la couverture médiatique sur Al Capone était bien, bien négative.
Ben exact. Sur Mom Boucher ou
ben
sur...
Ben négative aussi, là.
D'ailleurs, aujourd'hui, je lisais The Guardian, là, que je te cite souvent, qui a sorti son long dossier sur qui ils appuient. Et c'est Joe Biden dans un texte à la limite violent contre Trump, là, en disant que c'est qu'il a jamais été apte à la présidence, qu'il a propagé des mensonges, l'ignorance, fait des dommages aux États-Unis qui sont peut-être réparables après un premier terme, mais qui ne le seront pas après 4 ans.
De la part du Guardian, c'est pas très
très
à gauche.
Mais c'est un média qui, disons, quand même respecté. C'est juste dans le ton, Richard, qui est même très violent envers Trump.
Mais écoute, une couverture plus positive sur Biden que sur Hillary Clinton n'était pas aimée.
Vraiment même pas. Des médias.
Alors, gros dilemme de réparateur de téléphone.
Bon, là, je vais te lancer une question, Richard, en te mettant dans le contexte de cet homme-là qui a publié son histoire sur TikTok. Un réparateur de téléphone intelligent, là, OK, qui sert à remplacer la vitre ou déboguer un téléphone. Il y a un couple qui arrive et qui disent, le téléphone, là, on peut pas l'ouvrir, il est buggé, est-ce que tu peux nous réparer ça? Il dit, parfait, donnez-moi une heure et revenez. Et là, quand il ouvre le téléphone de son protecteur, de son étui, il y a un message où c'est écrit, s'il vous plaît, dites à ma femme qu'il n'est pas réparable, elle veut vérifier l'historique, voici 100$, merci, il y a eu un bill de 100.
C'est tellement bon.
OK?
C'est tellement bon.
Alors là, ma question, et c'est ça qui a lancé le débat, qu'est-ce que tu fais?
Ah, oh, je défends le bonhomme.
Toi, tu fais ce qu'on appelle le bro code. Là.
Ben oui. Oui, le bro code. Ben
alors,
oui.
Toi, tu dis...
Ben sinon, la merde va pogner. Là. Ils vont se divorcer pour une histoire niaiseuse. Puis tout ça, ben non. Puis regarde, je prendrais même pas le 100$. Je laisserais le 100$. Puis je regarde.
Si c'est bon, tu trompes ta femme quand tu veux. C'est pas moi qui vais le dire. Ça
c'est pas un crime, là.
Ben, écoute, ça a lancé tout un débat. Parce qu'il y en a qui disaient ça, le bro code. Mais bon. Là, d'autres qui disaient, ben non, au contraire, c'est lui qui est à tort, elle doit savoir qu'elle se fait mentir et compagnie. Alors finalement, tu sais ce qu'il a fait? Il a décidé de tout dire à madame. Alors il a montré le message, il a dit moi je veux pas rien.
Il a dit.
Oh, oui,
il est bien niaiseux.
Mais il a dit je vous le débarre pas, moi je veux rien savoir de vos affaires, mais voici le message.
Il est bien niaiseux.
Alors ce que la femme a fait, elle a dit parfait, elle dit moi je vais te payer 200 pour que tu le débarres. Et là il l'a débarré. Fait que là
OK.
Elle a doublé, puis là, il a pris l'argent, puis il a débarré le téléphone.
Tu sais quand tes amis trompent sa blonde.
Oui.
Tu le sais.
Oui.
Il t'en a déjà parlé.
Oui.
Vas-tu y dire?
Tout ça est déjà arrivé.
Vas-tu y dire? Vas-tu y dire à sa blonde?
Tu sais bien que non.
Le bro code?
Ça, c'est pas le bro code. C'est qu'il y a des bouts à m'amener où je peux pas être là.
Je sais pas. Vas-tu le dire?
Non, je l'ai pas dit. Quand j'ai été confronté à ça, je me suis mêlé de mes affaires, mais
quelle bonne histoire. Bon. Journée d'horreur pour un New-Yorkais.
Oui, deux petites nouvelles rapidement pour te dire qu'il y en a qui ont des pires journées que toi, Richard. Un homme du Bronx, samedi, qui se promène, attend l'autobus sur le trottoir. Le trottoir s'est dérobé sous ses pieds, là. Ça a défoncé. Il est tombé dans un trou de 15 pieds infesté de rats. On parle d'un homme de 33 ans qui aurait été là coincé, jambes cassées, bras cassés. Et là, il ne pouvait pas crier parce qu'il y avait trop de rats. Il voulait pas ouvrir la bouche. Heureusement, il y a des gens qui l'avaient aperçu. Ça a pris 30 minutes avant de le sortir de là avec l'aide des pompiers. Oh. On a fermé tout le coin parce qu'il y avait vraiment eu un défaut, évidemment, dans les fondations de la rue. Alors, plusieurs bureaux qui sont fermés dans ce secteur-là. Mais, tu sais, l'horreur, là, d'être coincé avec plein de rats près du visage.
Je serais mort. Je remarquerais là. Vol difficile pour une passagère de Delta, pas une autre histoire.
Ouais, l'autre journée de merde pour une dame qui s'appelle Alicia Beverly, qui dans un vol de Delta, donc vers Détroit, elle dort, elle se réveille parce qu'il y a un homme en train de lui pisser dessus. OK? Alors là, elle commence à crier.
Oh, Gérard Depardieu!
Non, ben là, les agents de bord interviennent et là, lui disaient, qu'est-ce que vous faites là?
L'animateur de Québec. Là.
Oui.
Bon. Robert Gillet.
Ça, c'était dans la douche, il semble. Et là, dans l'avion.
Un petit pipi dans l'avion.
C'est qu'il n'y a pas de...
Comment ça, le gars, il pissait dessus?
Bon, c'est ça l'affaire. Alors là, ils l'ont pris, l'ont arrêté à l'arrivée de l'avion. Et là, lui disait que non, c'était tout faux, que c'était un pasteur, puis que c'est vraiment pas son genre. Par contre, il y avait un rond de pisse. Et la dame était couverte d'urine, le siège couvert d'urine. Alors on l'a arrêté et finalement on l'a identifié. L'homme s'appelle, enfin il était sous l'effet de l'alcool. Finalement il dit je me pensais que j'étais aux toilettes. Alors lui il dit ok bon c'est cet rangé là. Il se l'est sorti, il a pissé sur la dame. Il s'appelle Daniel Chalmers et c'est le leader, le pasteur en chef de...
Les Golden Shower.
Non c'est Love Wins Ministries à Raleigh.
Ah ben oui.
Alors l'amour gang, Love Wins Ministries et de Catch the Fire. Church.
And piss on it.
Alors,
catch the fire.
Là, il est... bon, évidemment, il s'est excusé, là.
Ben, c'est à moindre des choses.
Il est accusé.
Il pensait qu'il était aux toilettes.
Il pensait qu'il était aux toilettes. Il voulait faire de l'alcool. Il dit qu'il avait pris des médicaments aussi, puis que visiblement...
Est-ce qu'il a mangé des asperges?
On espère. C'est rare sur un vol, les asperges.
Comme le gars d'un...
Il sert du poulet, il sert de la perruche.
Le gars d'un lendemain de brosse, ma joke de mon oncle de la journée, s'il te plaît. Un lendemain de brosse, il appelle son chum et dit, écoute, il dit, ils sont super magnifiques, tes toilettes en or. Il dit, ah, c'est toi qui as chié dans mon trombone. Voilà. Merci beaucoup.
Je connais le répertoire même.
Merci Vincent.
On n'est même pas vendredi. On est juste
vendredi. Ah ouais, mon cher Benoît.
Bon, bonne radio. Quoi? Ah oui, c'est à mon tour.
Ben oui.
On va... Vous avez vu ça, Éric Lapointe?
Oui, ben oui.
C'est tout.
Ben ouais.
C'est tout, je n'ai rien d'autre. Absolument.
Chaque ses doigts.
Ben
ouais.
Tu peignes une femme par la gorge, puis
ben oui.
Tu la lèves. C'est pas grave. Moi, je vais en parler tantôt à 10h35, mais il me semble que je l'aurais incité. Et le juge, comment il s'appelle le juge? Steve. Le juge Steve. Là, on est rendu compte que des juges qui s'appellent Steve.
Steve?
Steve. Steve.
Y a-tu un juge Kevin?
Non, mais il y a Steve parce qu'il y a deux... Alors, Steve, lui, il dit c'est pas dans l'intérêt de mettre un casier judiciaire. Excuse-moi, Éric Lapointe, là, il joue pas à Boston. Il joue pas en Floride, il joue pas à Paris. Tu sais, sa carrière est au Québec. C'est Steve Larivière. Ça, c'est le juge. On le salue. Et puis là, il dit, ben absolution, tout va bien. Là, tu dis, au moins, deviens porte-parole pour les groupes qui essaient de combattre la violence envers les femmes. Au moins... Prends position publiquement, pas juste 3 000 $, vous êtes un chèque, ouais, tu sais, là, deviens un homme, prends parole, assume-toi. On fait tous des erreurs. On met ça dans la colonne d'erreurs, là. Puis on apprend de nos erreurs.
Non, puis premièrement, va te suivre une thérapie pour l'alcool, c'était violent, là, quand
tu... Ben, tout ça, là. Puis adresse-toi aux hommes qui t'admirent. Aux hommes qui t'écoutent, aux femmes qui trouvent ça normal que son chum, bien viril, la pogne par la gorge. Rends-toi utile, là. Pas juste chanter, pas juste te mettre à genoux puis rouler à terre. Rends-toi utile, parle aux hommes. Dis-leur que son comportement est inacceptable, qu'il a fait une erreur, qu'il a appris, puis qu'il incite les hommes à apprendre aussi de la même erreur.
Mmh.
Il me semble. Mmh. On va en parler à 10h30. À midi, j'ai Nancy Roy qui a écrit au premier ministre, à Isabelle Charest, à Mathieu Lacombe. Puis écoutez-là, soyez là à midi, vous allez savoir pourquoi elle a écrit à ces ministres-là. Tu sais, souvent, on parle des cas de violence conjugale, là, le bonhomme qui pète les plombs, qui tue la mère. C'est toujours des histoires d'horreur. On fait jamais le suivi de ça. Qu'est-ce qui arrive par la suite? Comment la famille récupère? Qu'est-ce qu'on leur laisse comme... Tu sais, comme tout le problème administratif, est-ce qu'on les aide vraiment? On va parler de ça à midi.
On va t'écouter?
Ben, aujourd'hui, vraiment, là, à midi, là, j'aimerais ça que vous soyez là. Puis Luc Langevin va nous parler de James Randi à 11h. Luc Langevin, l'illusionniste.
James Randi, qui était...
92 ans, illusionniste, charlatan avoué, démystificateur, qui a éduqué les Américains, surtout les crosseurs. Tu sais, tous ceux qui parlent aux morts, les ben, John Edwards de ce monde.
Comme Houdini. Houdini avait fait ça aussi à la fin de sa vie. Houdini dénonçait justement les fraudeurs.
Puis tous ceux qui prétendent avoir des pouvoirs paranormaux, tu te souviens qu'il y avait un fonds d'$1 million à quiconque venait présenter un phénomène paranormal qui pouvait être observé et vérifié. Et le million est toujours là.
Et lui, il faisait quoi, lui? Il faisait plier des cuillères?
Non, c'est Uri Geller qui faisait ça. Et lui, il l'a amené à Johnny Carson au Tonight Show. Puis il a montré que c'était une arnaque, puis qu'Uri Geller avait pas plus de pouvoir paranormal que toi, Charles, t'avais de bonnes jokes.
Il se mettait comme une acide, ses doigts, puis
il... Il est dans le nez, je ne sais pas.
On va t'écouter, surtout à midi.
Oui, mais avec toute l'émission. Ben, à 10h30, ça va être bon. À 11h, ça va être bon. À midi, ça va être bon, puis tes chroniqueurs sont pas pires.
Il va danser, il va jongler, il va turluter, ça va être super le fun. Merci Hugo Veilleux à la recherche, Maude Boutet à la recherche, merci beaucoup. Achille Moinet à la réalisation et à la console, et on se reparle demain, 8h. Bonne journée.